Pour ce message de ce matin, le titre est super parlant, comme vous pouvez le voir. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans les psaumes. Et on va lire ensemble le psaume, en tout cas le début du psaume 90. Alors pour ceux qui n'ont pas de Bible, il sera affiché sur la diapo. Prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme la veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Ce psaume, où je me suis arrêté au verset 12, continue encore un petit peu après, est une prière donc de Moïse. Ce psaume fait partie donc des services funèbres dans l'église anglicane, et on comprend bien pourquoi, car il fait ressortir avec force la faiblesse et la fragilité de l'homme. Il faut aussi mettre en avant que la mort est le salaire du péché et le besoin absolu que nous avons tous de la grâce de Dieu. En regardant et en étudiant ce passage, j'y vois deux grands axes d'étude à première vue complètement différents. D'abord, après une courte introduction, plus centrée sur la gloire de Dieu, on verra la présentation de l'homme sous 5 aspects bien différents et non des plus glorieux. Un homme mortel, un homme fragile, un homme éphémère, un homme condamné et un homme aveugle. On verra aussi, ensuite, après une conclusion assez surprenante du psalmiste, qui demande à Dieu de lui enseigner comment compter les jours. On reviendra alors un peu en arrière et on reprendra donc du coup le début du passage sous un autre angle et on verra que parallèlement, on apprend plusieurs choses sur Dieu vis-à-vis du temps. D'abord que Dieu est en contrôle du temps. Au contrôle du temps, oui. Puis, que la vie est courte, que Dieu juge le temps et que l'on aura tous et de ce que l'on aura fait pendant ce temps. Le temps est un paramètre très important de notre vie. Si seulement j'avais plus de temps. Qui de nous n'a jamais dit ou pensé cette phrase ? Faites-vous souvent cette réflexion ? En un sens, le temps met tout le monde sur un même pied d'égalité. Et ni le riche ni le pauvre ne peuvent en accumuler. Une fois perdu, le temps est perdu pour toujours. Il nous est impossible de le récupérer. Et on ne peut pas racheter le temps. Premier point, la prière au Dieu d'éternité, avec les versets 1 et 2 que je vais vous relire. Prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ce passage commence par présenter l'auteur du psaume. Il semblerait que l'on parle de Moïse. qui se présente humblement comme un simple homme de Dieu. Surprenant pour un homme de son envergure et pourtant. Quand on voit d'où il vient, quand on regarde ce qu'il a fait, on pourrait facilement parler d'un grand homme de Dieu. Mais non, Moïse se présente comme un simple homme de Dieu et cherche par la suite, dans la suite de ce verset, à rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est, bien plus que pour ce qu'il a fait. Il met en avant au verset 1 que Dieu est un refuge, non pas pour lui et sa génération, mais pour tout le monde de génération en génération. Cette idée de Dieu comme un refuge est très loin d'être unique dans la Bible. On la retrouve au psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. N'est-ce pas merveilleux ? Notre Dieu prend soin de nous et nous protège, même lorsqu'on ne s'y attend pas. Quelle grâce et quel bonheur. Le livre des Lamentations, au chapitre 3, verset 26, nous dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » C'est lorsque l'on laisse Dieu agir, en déposant tous nos soucis à ses pieds avec confiance, qu'il peut intervenir pour nous délivrer. Moïse le savait. Attendons-nous à lui et il se battra pour nous. Pourtant, Dieu a tout créé. Pas facile d'attendre à l'Éternel quand on a envie de tout gérer tout seul, tout de suite. Pourtant, Dieu a tout créé. Il est le Dieu d'éternité, on voit au verset 2. Il est là avant que la terre fût créée. N'était-ce pas une bonne raison de lui faire confiance ? Ne mérite-t-il pas, comme Moïse le fait, si bien toute notre gloire ? Moïse l'avait bien compris. La seule force qu'il avait était celle de Dieu utilisant son bras et se battant à sa place. Mais pourquoi ? On va le voir maintenant. Moïse est conscient qu'il n'est rien et qu'il a besoin de la sagesse de Dieu afin d'être capable de faire ce que Dieu souhaite qu'il fasse en son temps. Un simple homme de Dieu, verset 1, Dieu un refuge. Tout ça pour le premier point que Dieu est éternel. Je vous ai parlé de 5 points qui mettaient en avant, on va dire des compétences, si on peut dire, des caractéristiques de l'homme. Le premier point serait celui-ci. À partir du verset 3, on rentre dans un tout autre univers. D'abord, verset 3, un homme qui est mortel. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. La première idée qui ressort est le fait que l'homme est mortel. Bien que cette idée soit clairement acquise dans notre société, elle n'est pas l'idée première telle que Dieu l'avait imaginée à l'origine. En effet, historiquement, la mort ne faisait pas partie dans la vie dans le jardin d'Éden. Elle est apparue avec le péché comme l'une des conséquences de ce dernier. Dans Genèse 3, 19, on peut lire « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre puisque c'est d'elle que tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Romains 3, 23 nous dit aussi « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » L'homme est pécheur. Nous le savons et à partir de là, la mort pour nous est clairement inévitable. On est né de la poussière et on retournera tous à la poussière. Et quoi qu'on veuille faire, quels que soient les progrès de la science, ce constat est et restera toujours le même. La médecine fait des progrès. Nos conditions de vie semblent, d'une certaine manière, s'améliorer. Mais la mort arrive et nous n'y pouvons strictement rien. Rappelons-nous la parabole de Jésus qui disait dans Luc 12, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Donc je lis la parabole de Jésus qui est dans Luc. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Finalement, pour conclure ce premier point, n'oublions pas que nous n'avons cependant pas à craindre la mort. Dans Matthieu 10, verset 28, qui est marqué sur le diaporama, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Homme mortel. Continue les versets 4 à 6, on découvre un homme qui maintenant est fragile. Je recite. « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme la veille, une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. » La deuxième caractéristique proposée par Moïse est un homme que j'appellerai fragile. Déjà par rapport à un Dieu en dehors du temps, où 1000 ans sont comme un jour, on est comparé à une fleur qui fleurit le matin et qui rapidement sèche. La vie est ainsi, l'homme passe si vite. Il est coupé comme l'herbe, mais sa beauté ne dure pas. Comme la floraison, on entre en terre d'Israël, les fleurs apparaissent à la mi-mars, mais elles sèchent à la mi-avril. Ainsi, non seulement les années des hommes sont brèves, on en a déjà parlé, mais en plus, celle où il est beau comme une fleur est encore plus limité. Dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » L'homme est fragile et ne peut rien faire. Mais n'oublions pas, dans Proverbe 3, on peut lire « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. » Homme fragile. On arrive au verset 7 à 9, une troisième caractéristique, un homme que j'appellerai condamné. Si je relis, nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Vous allez me dire, on reste toujours autour de la même idée. Et vous auriez effectivement raison. L'homme étant pécheur, il est condamné par Dieu. Car Dieu déteste le péché. Pendant cette période de 38 ans, dans le désert, selon les informations données par la Bible, alors je n'ai pas fait le calcul, j'ai retrouvé ça sur Internet, Moïse aurait vu mourir près de 1,2 million d'individus, soit une moyenne de 87 par jour. Tant de funérailles, tant de larmes. L'inexorable marche vers la mort. Moïse fait une observation toute simple, rien n'est caché devant Dieu. Ce que nous taisons devant les autres, ce qui se passe au fond de notre cœur, de notre âme, tout ceci est finalement mis en lumière. Et avec tous ces exemples de jugement, le peuple de Dieu ne peut défaillir devant son courroux, la colère de Dieu. Dans Romains 3:10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Dans Romains 6:23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais n'oublions pas, nous sommes certes condamnés par le péché, mais nous sommes aussi graciés par Jésus-Christ. La suite du verset de Romains 6:23 continue et dit « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Un homme condamné. Enfin, quatrièmement, on découvre au verset 10 un homme que j'ai appelé éphémère. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Maintenant, pour accentuer les choses, comme si la situation n'était pas déjà assez claire, on en rajoute encore une couche en parlant d'un homme éphémère. Sa vie arrive et sa vie s'arrête aussitôt. La vie est si courte que finalement la question de notre but est clairement d'actualité. Un grand sage de la Bible, pour ne pas citer autre que Salomon, corrobore cette idée. Dans Ecclésias, il dit « Quel profit l'homme retire-t-il de tout son labeur dont il se fatigue sous le soleil ?» Une génération s'en va, une génération arrive, mais la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il se hâte vers son lieu d'où il se lève de nouveau. Peu importe l'âge de la fin, ce qui est mis en avant ici, ce n'est pas la fin en soi, mais le fait qu'elle arrive vite, très vite, toujours trop vite, plus vite que nous le souhaiterions. Ne perdons pas notre temps alors à suivre des vains objectifs. La vie est trop courte. Vous ne savez pas, Jacques disait, ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Mais n'oublions pas. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, car il est passé de la mort à la vie. L'homme est certes éphémère, mais Dieu lui promet la vie éternelle. Enfin, pour terminer, le dernier point de cette prière, de ce premier parcours, c'est ce que j'ai appelé un homme aveugle, avec le verset 11. Quand on lit « Qui prend garde à la force de ta colère, à ton courroux selon la crainte qui t'est due ?» L'homme est finalement aveugle et incapable de voir au final la réalité des choses. Satan est très fort pour tout cacher. Le monde est dans le noir, aveugle du péché, aveugle de la route qu'il est en train de prendre. Il va tout droit vers sa propre perte. Il est incapable de s'en rendre compte. La parabole de l'aveugle en révèle bien le concept. Bien souvent, nous sommes comme eux. Nous nous éloignons de Jésus-Christ, le seul capable, au final, de nous rendre la vue, réellement, pour nous guider. Mais n'oublions pas. Si je relis juste ce qui est dit dans une des histoires dans Marc 8, Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur ses yeux et lui imposa les mains. Et lui demanda, « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Ayant ouvert les yeux, l'homme disait, « Je vois des gens, ils ressemblent à des arbres et ils marchent. » L'homme est aveugle, mais Dieu rend la vue. Si je résume rapidement ces quelques points, nous retrouvons en face d'une situation avec un homme qui est mortel, mais qui n'a pas à craindre la mort. Un homme qui est fragile, mais s'il met sa confiance en Dieu, Dieu pourra faire des miracles. Un homme condamné, mais sauvé par Jésus-Christ. Un homme éphémère, qui peut avoir le don de la vie éternelle. Et un homme aveugle, avec un Dieu qui met toutes choses en lumière. Il reste un dernier verset, le verset 12, qui nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Pour finir cette première lecture du passage, il ne faudrait pas oublier ce verset 12. Le psalmiste demande à Dieu de l'enseigner à bien compter ses jours, afin de faire ce qui est sage, et cela malgré toutes ses faiblesses. Quelle belle prière. Peut-être que nous l'avons déjà faite, conscients de notre état de pécheur, en voulant servir Jésus-Christ. Si oui, avons-nous été capables de répondre à ce que Dieu nous demande et commande de faire tous les jours? C'est plus difficile. Le signe de la sagesse dans le contexte tel que souhaite décrire le psalmiste est la capacité de bien gérer son temps, et cela malgré notre nature pécheresse. Dans Colossiens 4, on peut lire « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Le temps est un vaste sujet que je souhaite rapidement entrevoir avec vous. Pour cela, revenons un tout petit peu en arrière dans ce passage et re-regardons ces 12 versets maintenant sous un autre angle. Le temps. Verset 1 et verset 2. Dans ces deux premiers versets, l'on apprend que Dieu est éternel. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération, et un peu plus loin, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il est à la fois un refuge pour les personnes de l'époque, du temps de Moïse, mais il l'est aussi pour nous aujourd'hui, de génération en génération. Il est aussi le Dieu créateur, le Dieu d'éternité. Dans 1 Timothée, est-ce que je l'ai marqué ? Non, je ne l'ai pas marqué. Dans 1 Timothée 1, au verset 17, « Au roi des siècles, immortel, invisible, Dieu, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. » Ce premier point, et non les moindres, est le fait que notre Dieu est éternel. Il était avant l'origine du monde, et il sera là à la fin de celui-ci. Deuxième point, en repartant sur les versets 3 et 4, on trouve un Dieu en dehors du temps. Dans ces deux versets suivants, on apprend que Dieu... je me suis sauté. Maintenant, dans ces versets, on découvre que Dieu est en dehors du temps. Pour lui, un jour sont comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Il voit le présent, le passé et le futur au même moment. Puisque Dieu est, par définition, le créateur de l'univers tout entier, il est aussi le créateur du temps. Par conséquent, il n'est pas non plus limité par la dimension du temps qu'il a créé. Il n'a donc pas de commencement dans le temps. Dieu est le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, disait Ésaïe au chapitre 57, verset 15. Pierre en parle aussi un peu plus tard. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dieu est éternel, Dieu est en dehors du temps. Mais on apprend aussi que Dieu contrôle le temps. Et là, on rentre dans des sujets que nous apprécions peut-être un petit peu moins. Verset 5 et verset 6. Tu les emportes, semblage à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Dans ces deux versets, on trouve une nouvelle caractéristique de Dieu face au temps. Dieu est clairement au contrôle du temps. La fin arrive quand il le décide, et seulement quand il le décide. Nous avons beau croire que nous sommes forts, nous avons beau imaginer que nous sommes capables de gérer et contrôler le temps, il n'en est strictement rien. Dans Galatiens 4, les versets 4 à 5, on peut dire « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. » Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu contrôle le temps. Il contrôle la nature, il contrôle les saisons, il contrôle la pluie, les fruits qui poussent dans les champs. Dieu contrôle tout. Dieu contrôle le temps. Mais Dieu est aussi le juge du temps. Verset 7, 8, et là j'ai basculé juste avec le verset 11. Le verset 9-10, on les verra dans le dernier point. On apprend aussi que Dieu juge le temps. Rien ne lui est caché. Nous avons déjà vu que nous sommes pécheurs et que toutes nos fautes sont devant sa face. Quel triste visage nous donnons à Dieu. Et pourtant, il souhaite notre vie. Cependant, n'oublions pas que même s'il est un Dieu d'amour, ce qui est vrai, c'est aussi un Dieu qui juge et qui jugera le monde. Dans 2 Corinthiens 5, 10, on peut lire « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Dieu va juger tout le monde, et Dieu est le juge du temps. Et pour finir, avec les deux versets qu'il manquait, les versets 9 et 10, nous avons un point qui met plus en avant que notre vie est courte. Le temps passe vite. Comme le dit ce verset, nos années s'évanouissent comme le son. On l'entend et hop, il disparaît. Notre vie commence et se termine. Et que reste-t-il ? Pas grand-chose. Job le dit bien dans Job 14, les versets 1 et 2, il dit « L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. » Pour résumer un peu ce deuxième parcours, qu'est-ce qu'on a ? On a un Dieu qui est éternel, on a un Dieu qui est en dehors du temps, on a un Dieu qui contrôle le temps, on a un Dieu qui juge le temps. Et tout cela pour en arriver à un constat que notre vie est courte. La question fatale arrive donc de nouveau avec ce verset 12. Si Moïse demande à Dieu la sagesse de gérer son temps, la question pour nous se pose de comment l'on gère nous aussi notre temps. Avec la sagesse de Dieu, avec ce que nous pensons devoir faire, malgré notre petitesse. La conclusion de tout ça est résumée par cette demande de Moïse, qui demande à Dieu d'apprendre à gérer son temps, à gérer son temps avec la sagesse d'en haut. Dans Jacques 3, 17, on peut lire « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. » Comment donc, me diriez-vous, pouvons-nous bien compter nos jours ? Devons-nous tous devenir moines dans une grotte et passer 100% de notre temps avec Dieu à prier et à méditer sa parole ? Ou à contrario, on peut considérer que Dieu est un sadique cosmique pour n'avoir créé que 24 heures dans une seule journée, sachant pertinemment qu'en 24 heures, on n'arrivera pas à tout faire. Charles Richards disait, je n'ai aucune idée qui c'est, mais j'ai bien aimé sa phrase, donc c'est pour ça que je vous le cite, que l'agenda ne vous induise pas en erreur, il y a dans une année que le nombre de jours nécessaires pour faire ce que nous sommes appelés à faire. Il y a dans une année que le nombre de jours nécessaires pour faire ce que nous sommes appelés à faire. Si nous n'avons pas le temps, le problème, c'est qu'on ne fait pas ce qu'il faut qu'on fasse, parce qu'on a le temps de faire ce que Dieu nous demande de faire. Pour essayer néanmoins de répondre à la question, permettez-moi juste de sortir un petit peu du passage pour finir. Essayer de répondre rapidement à cette question. On découvre donc, j'ai marqué deux passages, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira » dans Matthieu 7. Et on a aussi dans 1 Jean 5, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous la donnera. Le premier point dans cette gestion du temps, c'est la prière. C'est exactement ce que Moïse a fait à travers ce psaume. Il a prié Dieu. Si nous prions Dieu selon sa volonté, Dieu nous répondra. Rappelons-nous de Salomon qui a demandé la sagesse et qui est devenu l'un des plus grands sages que le monde ait jamais connu. Et Dieu, par-dessus tout, l'a béni bien au-delà de la sagesse qu'il a eue. Le premier point, pour moi, est le plus important, c'est la prière. Le deuxième point, ce que je vous dirais, c'est... C'est un commandement de Dieu. La Bible nous avertit clairement de faire très attention à la gestion de notre temps. Dans Éphésiens 5, on peut lire « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » La Bible nous demande ici de racheter le temps. Ce n'est pas juste une demande. C'est même plus qu'un conseil. Je dirais que cette demande, c'est un commandement de Dieu. Il faut racheter le temps, car les jours et l'avenir ne sont pas glorieux. Nous ne pouvons rien sur notre passé, si ce n'est demander pardon pour ce que nous aurions fait. La seule chose avec laquelle nous pouvons jouer, entre guillemets, est notre présent. Nous avons la main sur celui-là. Il nous appartient à chacun de nous. Et cela, peu importe notre passé, notre éducation, notre travail, et j'en passe, de racheter le temps et de chercher à faire ce qui est bon et juste. Dans Colossiens 4, versets 5-6, on peut lire « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. » Je l'ai déjà lu ce passage. « Et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Le troisième point que je souhaitais vous parler était devenir un bon et fidèle serviteur. Et là, vous êtes tous en train de penser à cette parabole que je ne vais pas relire, il est déjà midi. Mais je vais juste vous dire deux versets de cette parabole. À la fin, il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Je rappelle rapidement la parabole. C'est un maître qui va donner des talents un certain nombre de talents différents à ses serviteurs. Et il y en a qui vont utiliser ces talents pour le faire fructifier et en redonner plus à son maître. Et d'autres, comme le dernier, qui ne va rien en faire et qui va les garder bien au chaud, qui va les rendre. Et à la fin, Dieu va lui dire cette autre phrase, il va lui dire « Serviteur méchant et paresseux ». Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a déjà 10. Celui qui aura bien utilisé son temps sera appelé bon et fidèle serviteur. N'aimerions-nous pas que Dieu nous appelle de la même manière ? La fin de la parabole, j'aime bien aussi, encourage le fidèle serviteur en lui donnant encore plus de responsabilités parce qu'au final, il va récupérer les talents que le mauvais serviteur n'a pas utilisés. Dans 1 Corinthiens 4, les versets 1 et 2, on peut lire « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ » et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Un nouveau point, c'est, ce passage, vous le connaissez aussi, c'est « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » La troisième idée que je vous propose est celle de toujours chercher à rendre gloire à Dieu. L'idée est que quoi que nous fassions, que cela puisse rendre gloire à Dieu. Est-ce que cela signifie qu'il faut toujours faire des choses à l'église et toujours lire et prier sa Bible ? Lire et prier ? Je ne pense pas. Même, certes, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. Je pense que l'attitude de prière, par contre, doit être permanente. Je pense que chercher la volonté de Dieu et la gloire de Dieu doit être permanent. Et cela, parfois, à travers des choses très simples de la vie. Simplement, peut-être, en étant un bon témoignage dans son travail. Simplement, en gérant bien sa famille, en éduquant peut-être proprement ses enfants, en aidant celui ou ce frère qui en aurait besoin. Voilà de multiples choses qui glorifient Dieu. Il ne s'agit pas là de chercher à faire des bonnes actions, mais la résultante est sensiblement la même. Il faut avoir une attitude de cœur, la volonté de servir Dieu au fond de nous, et surtout avant tout. Et le dernier point que j'ai déjà cité, mais que j'aime aussi rappeler, c'est qu'il y a quand même une promesse qui est associée à ça, à cette gestion de son temps. Elle est bien là, dans Colossiens 3, 17, dans Matthieu 25, 23, on peut lire, son maître lui dit « Sois bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » N'oublions pas la promesse associée au bon et fidèle serviteur, rentrer dans la gloire de Dieu et avoir plus de responsabilités. N'est-ce pas merveilleux? Quelle belle promesse! Cependant, pour y avoir accès, je ne vous cache pas que ce n'est pas facile. Il va falloir se battre. Il va falloir faire des concessions. Il va falloir prioriser Dieu dans sa vie. Il va falloir mettre la volonté de Dieu en premier, et cela bien avant notre propre volonté, bien avant nos propres désirs. Apocalypse 3, 5 dit « À celui qui vaincra sera revêtu ainsi de... Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » La promesse est donnée, je ne l'ai pas marqué dessus, si. La promesse est donnée à celui qui vaincra, c'est-à-dire au vainqueur, c'est-à-dire aussi à celui qui se sera battu. Mais n'oublions pas que si nous suivons Dieu, la victoire est déjà assurée. Il ne tient pas à nous de courir la course et il ne tient qu'à nous de courir la course et de faire notre travail. Dieu a déjà gagné la course. Il nous suffit juste à nous de faire partie de son équipe. Et la victoire est là. Pour résumer, les quelques points, et ils ne sont pas exhaustifs, pour bien gérer son temps, il faut prier, savoir que Dieu nous demande d'apprendre à gérer notre temps, chercher à devenir un bon et fidèle serviteur, toujours rendre gloire à Dieu et être dans l'équipe de Jésus-Christ. Alors, Dieu nous donnera la vie éternelle. Pour conclure, et je terminerai là-dessus, par rapport à l'homme, on confirme, même si l'on sait déjà, que l'homme est mortel, fragile, condamné, éphémère et aveugle. Rien que ça, vous me direz. On apprend aussi que sa vie est courte et qu'il ne peut pas de lui-même faire grand-chose. Par rapport à Dieu, on a une description assez particulière, le concernant vis-à-vis du temps. On apprend qu'il est éternel, qu'il est en dehors du temps, qu'il contrôle le temps et qu'il juge le temps. Tout ça pour arriver à en conclure que Moïse demande à Dieu par la prière de lui apprendre à bien compter les jours, afin d'appliquer son cœur à la sagesse. Il n'est pas facile de bien gérer son temps. Pourtant, c'est bel et bien un des commandements de Dieu. Apprenons donc à l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire pour la gloire de Dieu, afin de devenir un bon et fidèle serviteur, des dons qu'il nous donne à tous. La promesse associée à ce commandement n'est rien d'autre que la vie éternelle. Prions donc pour demander à Dieu de nous guider et nous donner la sagesse sur l'utilisation de notre temps. Analysons notre vie, utilisons le présent en faisant dès maintenant de Dieu notre priorité et cherchons à utiliser notre temps, notre énergie, nos dons pour la gloire de Dieu. Prions. Ouais, Seigneur, je sais, nous savons que nous ne sommes pas grand-chose. Ce passage nous rappelle combien nous sommes faibles, combien nous sommes fragiles, combien, quoi que nous voulions, quoi que nous fassions, nous ne pouvons strictement rien faire, rien contrôler sans toi. Je te demandais pardon, Seigneur, parce que bien souvent, je me crois bien plus fort que je ne le suis. Et j'essaie même parfois de me croire plus fort que toi, Seigneur. Je veux te prier comme Moïse l'a fait et te demander de nous apprendre à bien compter nos jours, de nous apprendre à bien utiliser notre temps. Nous avons tous 24 heures. Que ces 24 heures puissent être utilisées à bon escient, Seigneur. Et je te prie que je puisse ne pas avoir de regrets sur le temps passé, mais que je puisse avancer en sachant que je suis dans ta volonté, Seigneur. Amen.